Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Ben regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour Bruno à la régie, ça faisait longtemps que tu m'accompagnais pas sur un épisode. Au revoir Tom du coup qui nous a quittés, qui est parti vers des ailleurs. Bon, je sais pas, plus heureux, je sais pas. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Anne-Charlotte Herriot, qui se trouve être ma collègue de travail depuis le mois de septembre, figurez-vous. Bonjour Anne-Charlotte.
Bonjour Laura, bonjour Bruno.
Bienvenue dans Terrain Vague.
Merci de me recevoir.
Avec plaisir. Anne-Charlotte, je pense que tu as un parcours qui est riche et varié et que ton lien à la culture et à l'art, plus particulièrement, est hyper intéressant à creuser. Et moi, j'ai envie de savoir un peu tout ce que tu fais, même si je te connais un petit peu. Mais je crois que tu fais des tas de trucs.
Ok, nous allons creuser ce matin.
On va creuser ce matin. Alors attends, peut-être que j'approche un petit peu ton micro. Oui, voilà.
C'est mieux.
C'est mieux, je t'entends mieux.
Donc je disais, nous allons creuser.
On va creuser, tout à fait. Ce matin, on va creuser un petit peu. On écoutera un petit peu de musique aussi. Dis-nous un petit peu qui tu es. Parce qu'en fait, même aujourd'hui, alors je saurais te définir pour Line-Up. Hein, tu es chargée de mission programmation pour Line-Up. On y reviendra dans un second temps. Mais là, aujourd'hui, tu es freelance. Mais c'est quoi ton...
Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je suis chargée de projet dans l'événementiel culturel. Okay. J'ai toujours travaillé dans l'événementiel. J'ai fait les études pour travailler, en tout cas, dans la gestion de projets culturels.
Okay.
J'ai commencé mes études, j'ai fait mes études à Lille. J'ai fait un parcours assez basique, histoire de l'art, gestion de projets culturels, un master pro, ce que je voulais dans le concret. Je suis partie ensuite à Paris et en fait, j'ai commencé l'événementiel dans les expositions.
D'accord.
J'ai commencé dans les musées à travailler sur la coordination d'expositions temporaires.
Okay.
Et à partir de là, de remplacement en remplacement, je me suis retrouvée à faire de l'événementiel culturel, donc plus large, donc au musée de la Marine notamment à Paris, sur des sujets qui n'étaient pas forcément ma spécialité.
Ah ouais, j'allais dire musée de la Marine, tu vois. C'est pas l'endroit où je te vois en premier, quoi.
Mais ce qui est super, c'est de trouver des formats d'événements pour toucher des publics plus larges et arriver à faire découvrir un sujet qui est assez spécifique. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, marre de Paris, marre de la pluie, cliché. Et on est parti dans le sud. Je suis partie dans le sud. Et c'est là où j'ai diversifié, mon métier.
Ok. Donc Lille, je ne savais même pas que tu venais de là-haut.
Je viens de là-haut. J'ai fait mes études à Lille. Ensuite, je suis descendue à Paris. Maintenant, je suis à Montpellier.
Peut-être qu'après,
où est-ce que je vais finir?
Tu descendras encore plus bas, peut-être plus.
C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Ok, donc attends, je reviens juste sur le musée de la Marine. Comment t'es arrivée là-bas? Parce que...
Une amie. Non, mais je suis arrivée pour un remplacement de congé maternité. Et je me suis éclatée parce que je suis arrivée sur une expo qui était super, qui s'appelait « Les marins font la mode ». Et c'était comment la marine a inspiré la mode.
Oh.
Et du coup, je me suis retrouvée vraiment cliché. Hein, le diable s'habille en Prada. C'est-à-dire que je me suis retrouvée petite provinciale de Lille arrivée à Paris à devoir faire le tour des maisons de couture pour récupérer les œuvres qui étaient exposées.
Mais c'est génial.
Jean-Paul Gaultier, Chanel. Vraiment, c'était un délire.
Ah ouais, ouais.
Non, c'était super.
C'est pas mal.
J'ai rencontré Jean-Paul Gaultier.
Ah ouais.
Il m'a fait la bise.
Oh là là, purée, quelle aventure.
Je pense que tu t'attendais pas à ce genre d'anecdote.
Non. J'avoue, non, je m'attendais pas à celle-là.
Et
non.
C'est pas fini.
Ok, donc musée de la Marine. Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion, t'as fait de l'événementiel, est-ce que tu as eu l'occasion de faire un peu de médiation, du coup, avec des publics aussi?
Complètement. Ouais, là, on avait développé énormément de formats d'événements. Des conférences, des concerts, on participait bien évidemment à la Nuit des musées, Journée du patrimoine, donc On a mis plein de formats un peu hybrides avec des écoles de photo, avec des écoles de théâtre. Enfin, c'était déjà, voilà, on a essayé de diversifier l'approche de la marine.
Ok, c'était varié déjà. Et donc, tu arrives à Montpellier ?
J'arrive à Montpellier.
Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Le drame. Non, je ne trouve pas de travail. C'est un peu, en tout cas, dans la niche dans laquelle j'étais sur la coordination d'exposition, c'était assez limité, en tout cas, quand je suis arrivée dans le sud. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à faire un peu la tournée de tous les vernissages pour rencontrer un peu les acteurs et voir un peu ce qui se faisait. Okay. À partir de là, bah, vu que j'étais au chômage, hein, je m'ennuyais et que je ne trouvais pas de travail, j'ai commencé à ouvrir un blog. C'était la mode des blogs à cette époque-là.
Anne-Charlotte blogueuse.
Ceux qui me connaissent se souviennent du nom, ça s'appelait Bip Blog in Progress. Voilà. Aujourd'hui, il est mort, il est craché.
Oh non.
Mais du coup, sur ce blog, je faisais des comptes rendus d'expo et je faisais surtout un agenda où je mettais tous les vernissages. Et donc, ça avait sa petite audience. Et à partir de là, on m'a proposé des piges, des missions.
Ouais, t'étais devenue un petit média local, en fait, finalement.
Ouais, un petit média, parce que je...
Ouais, 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 mais du coup, t'étais quand même un petit agenda ouais, culturel, enfin, en tout cas, des vernissages.
On m'envoyait plein de trucs, je mettais en ligne, j'étais surbookée, j'avais pas le temps, je m'en pas payé, mais c'était, c'était un super moyen de découvrir les acteurs et de, voilà, et de rencontrer les artistes aussi. Et du coup, à partir de là, bah, j'ai travaillé pour d'autres magazines. Et ensuite, Illusion Macadam, qui est une coopérative dans le secteur culturel, m'a contactée pour m'occuper des réseaux sociaux sur le premier festival Tropisme. Voilà. D'accord. Comment je suis arrivée aussi.
Dans... Ah ouais, t'es arrivée en tant que community manager en plus.
Ouais, tu savais pas ça.
Ah non, je savais pas.
Moi, j'ai fait du community manager.
Génial. Donc, et en plus, c'était une mission. Ouais. C'était.
Je me suis mis en freelance. Dès qu'on m'a proposé des piges, je me suis mis en freelance. Et Illusion Macadam est arrivée. Là, ils m'ont proposé un CD. Je crois que c'était un CDD, je sais plus. Mais du coup, je continuais aussi à côté mes activités en free. Donc, assez vite, je me suis mis à mon compte. Ouais, à Montpellier. C'est surtout Montpellier qui a déclenché ça.
Ouais, et tu bossais à Illusion Macadam quand les bureaux étaient encore rue de l'Aiguillerie, du coup.
Tout à fait, rue de l'Aiguillerie. C'est aujourd'hui, je crois, un lieu de coworking.
J'avais demandé un stage, mais je ne l'avais pas eu. Voilà.
Ah ben, désolée. Je n'avais pas encore tous les codes.
Donc du coup, tu fais cette mission pour un festival, c'est ça ?
Pour le festival Tropisme. C'était... Le festival Tropisme qui est devenu aujourd'hui l'Altropisme.
Ah !
Et oui, le festival est devenu le lieu.
Ah, d'accord.
Et oui, les gens...
Bah, celle-là non plus, je ne l'avais pas.
Ah, bah, ça a été un grand chantier de chercher le nom de la Altropis, mais en fait, c'est apparu comme une évidence, en tout cas pour, à l'époque, Sébastien Paul, Vincent Cavaroc, de donner le nom du festival au lieu, qui allait être, comment dire, le résultat, en tout cas, de ce festival.
Et ce festival, il consistait en quoi ? Enfin, c'était quoi la programmation ?
C'était une programmation autour des arts numériques, de la musique, du foodisme. Il y avait une programmation assez éclectique, mais autour quand même du numérique aussi. L'art numérique était assez très présent.
Et alors, du coup, quel lien entre le contenu du festival et le fait que ça s'appelle Tropisme ?
En fait, c'est tout ce que tu pouvais voir, écouter, manger pendant le festival, ouais. C'est ce qu'on retrouve, c'est la configuration aujourd'hui de la Altropisme.
Oui, non mais le nom, c'est-à-dire Tropisme, le nom, le mot, parce qu'il me semble, et parce que je l'avais vu à la fac en plus, Tropisme, c'est héliotrope et c'est le fait que les plantes se tournent vers le soleil, non ?
Oui,
ou un truc comme ça.
C'est ça.
Comment a été trouvé ce mot ? Enfin, c'est ça qui m'interpelle.
Qui l'a trouvé ?
Parce que du coup, c'était le nom du festival,
c'était
à la base.
C'était le nom du festival. À la base, il y avait un autre directeur artistique, Grégory Diguet, m'en veux pas si je me souviens plus de ton nom, mais je suis sûre que c'est ça, qui est aujourd'hui à la tête d'un autre lieu qui s'appelle le Château de Gouttelas, qui est super. Et du coup, je crois que c'est Grégory et Vincent qui ont trouvé le nom.
D'accord.
Et après, l'origine, je ne sais plus, mais je crois que c'était aussi le Sud... Le lien avec le soleil, cette idée de faire germer aussi une programmation et des idées. Et là, du coup, ça a donné un lieu.
Ok, d'accord. Bon, parce que j'aime beaucoup le mot, je trouve très chouette.
Tellement de jeux de mots après qui se sont...
Bah oui, forcément, voilà. Je ne suis pas une amie des jeux de mots. Certains vont reconnaître ce que je dis là-dedans. Donc, tu fais cette mission de community manager.
Ouais.
Et la suite, parce que du coup, tu y es restée après.
Oui, j'y suis restée. Enfin, entre-temps, non, je suis repartie. J'ai fait d'abord cette mission-là. Ensuite, j'ai repris mes activités de pigiste. Parce qu'entre-temps, j'avais appris des études de journalisme en presse écrite à distance avec le SJ Paris. Donc, du coup, parce que je ne me sentais pas légitime d'écrire. Donc, du coup, ce truc, hein, toujours de se dire attendez, j'ai pas de diplôme. J'ai un diplôme.
Petit syndrome de l'imposteur.
Voilà. Et donc, j'ai continué mes activités. Et puis, un autre moment. Une année plus tard, je pense, ou deux ans, je ne sais plus, Sébastien Paul, qui dirigeait la coopérative, m'a recontacté pour me proposer un projet complètement fou. Je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais en gros, il m'a contacté pour lancer un projet événementiel autour de la food, autour de la bière.
Okay.
Et donc, du coup, l'idée, c'était ils avaient acheté à la coopérative une machine pour créer pour brasser de la bière en ligne, en fait, de manière numérique. Et du coup, de manière connectée. Et il m'a dit, j'aimerais bien que tu développes le projet. Du coup, je suis arrivée pour développer ce projet de brasserie, de micro-brasserie, même pico-brasserie connectée.
Pico-brasserie.
Ouais, parce qu'en fait, on pouvait brasser 9 litres par brassin. Et du coup, j'ai développé une marque qui s'appelait Brio. Et on a développé cette activité en faisant des salons, de l'événementiel, avec cette bière artisanale qu'on avait créée au sein des bureaux rue de l'Aiguillerie.
Ah ouais, mais...
Je suis un chat, j'ai plusieurs vies.
Ah ouais, complètement. C'est fou,
fait de la bière, je m'y connais en bière.
Je comprends mieux maintenant. D'accord, ouais. Ok.
Donc il y a eu ça, mais il n'y a pas eu que ça, parce qu'il y avait effectivement la bière, mais il y avait aussi l'entrepreneuriat culturel. Puisque moi, j'étais à mon compte et que j'avais développé mon business.
Femme d'affaires.
Il y avait aussi l'idée de développer à ce moment-là, au sein d'Illusion, une formation sur l'entrepreneuriat culturel. Donc j'ai travaillé avec le service formation et les équipes pour développer du contenu sur une formation pour aider des jeunes entrepreneurs à se lancer. Donc, j'ai travaillé aussi à côté sur de l'accompagnement entrepreneurial en développant aussi cette formation et en accompagnant quelques porteurs de projets à côté. Voilà.
Bon, toi, tu fais 1 milliard de trucs dans une journée, de ce que je comprends. Pourquoi, enfin, là, c'est plutôt personnel ce que je te pose comme question, mais cette envie de faire, voilà, tu as bossé avec un brasseur, tu as fait du community management, je ne te voyais pas du tout là-dedans. Tu as développé un dispositif de formation. D'où ça te vient, cette envie de diversification comme ça?
Je m'ennuie très vite. Non, j'ai besoin d'être stimulée, d'être challengée. Et du coup, dès qu'il y a un projet qui me semble, ça peut être cool et que les gens sont cool, j'y vais assez facilement.
Peu importe le sujet finalement, parce que tu as quand même un attrait pour la culture, oui, l'art, etc. Mais par exemple, tu as bossé avec un brasseur.
Oui, là, la bière, c'était... Oui, je suis sortie un peu de ma zone de confort. Ça a été des nuits quand même très courtes parce que la machine avait du mal à fonctionner. On bossait avec un brasseur qui avait une machine aussi, la même machine. C'était une machine américaine. Et du coup, on était deux en France quand on l'a acheté.
D'accord.
Et du coup, j'avais trouvé un mec qui était à Strasbourg, qui l'avait. Donc, il m'appelait dès que j'avais une galère. Enfin, c'était assez compliqué, mais j'aimais bien l'idée de créer une marque, comment tu la développes, quelle stratégie tu développes aussi, commercialement, enfin j'ai appris plein de choses. Et du coup, c'était plus que faire de la bière, c'était un projet culturel autour de la food. Mais... Donc du coup, c'est plus l'envie, les gens qui proposent. Et
le processus, j'ai l'impression que ce que tu aimes bien aussi, c'est les différentes étapes, et même si c'est nouveau et que tu ne connais
process.
Pas... J'avais cru comprendre. Même si tu connais pas, finalement.
Oui, oui.
Les différentes étapes qui mènent à l'accouchement d'une marque ou de...
À l'accouchement,
oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi, mais oui.
Oui, je trouve qu'après, on est assez... Enfin, j'ai l'impression que on est capable aussi d'apprendre plein de choses et de sortir de la zone de confort, et je trouve que c'est assez stimulant, et du coup, c'est enrichissant aussi de découvrir plein de choses à chaque fois. Et après, j'étais quand même en lien. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que je découvre aussi un autre monde. C'est l'entrepreneuriat culturel aussi, mm-hmm. qui faisait partie aussi du projet Brio. Et de comment, voilà, de réfléchir aussi en équipe, comment structurer un projet, comment le développer. Ça, c'est des choses qui m'ont toujours passionnée. Parce que quand tu fais de l'événementiel, tu gères un projet. Donc aussi, là, c'est un projet,
oui,
à plus grande échelle.
Mais oui, complètement.
C'était aussi cette idée-là de toujours... J'aime structurer.
Elle aime les process, elle aime la structure. On va faire une petite pause musicale avec le morceau « À fleur de peau » de Enchantée Julia. Et on revient juste après. We'll be right back.
toujours à faire le beau, souvent à fleur de peau, comme le parfum tôt le matin. Trop de mauvaises rencontres ont fait du tort. Pour oublier, il m'a fallu du temps. Ouh, mais j'étais dans la peau, j'étais dans la peau. Ouh, ouh, j'étais dans la peau, j'étais dans la peau. Ouh, ouh, pour jouer le jeu, il fallait être deux. Heureuse dans les yeux. Des fleurs, des chrysanthèmes, et par centaines, tu m'as renversé comme un sablier. On se retrouve pour mieux s'oublier.
Morceau tout doux, là, c'était trop bien. J'ai trop bien fait de le choisir.
Je me suis endormie.
on va aborder, du coup, parce que, enfin, il nous reste...
On en était où ?
Il va pas nous rester 1000 ans non plus. 10 minutes, ok. 10 minutes, on va parler, du coup, de ce que tu faisais à Tropisme après, puisqu'en fait, t'as été en poste.
Tout à fait.
Alors...
Effectivement, j'ai été en poste à Tropisme. J'ai été 7 ans au sein de la coopérative. Et en fait, assez vite est arrivé le projet d'ouvrir un tiers-lieu culturel. Mm-hmm. Du coup, je me suis retrouvée sur le poste de... À la base, c'était chargée de commercialisation des espaces, qui était de louer les espaces à la future communauté de résidents. Mm-hmm. Puisque l'idée, effectivement, d'un tiers-lieu, c'est d'avoir des lieux de divertissement, des lieux de travail. Donc des gens qui travaillent, qui ont des bureaux, donc de mélanger aussi ces communautés. Et donc moi, j'avais en charge de louer les espaces à louer, donc les bureaux et les ateliers qu'on a ouverts ensuite. Donc je me suis retrouvée à devoir créer une communauté culturelle et artistique créative. Et je me suis occupée de tout le volet administratif, donc de gérer les contrats, faire visiter les espaces et compagnie. Et ensuite, quand j'étais sur place, d'animer la communauté. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens se connaissent, comprennent qui fait quoi.
Donc tu avais un peu d'événementiel du coup là aussi.
Ouais, l'événementiel plutôt pro, même si on avait gardé des formats. J'avais gardé un format qui s'appelait Superette, qui était plutôt grand public.
Mais oui.
Mais d'ailleurs on a travaillé dessus.
Mais bien sûr.
Mais voilà, c'était louer les espaces, animer la communauté pour qu'ils travaillent ensemble et créer des événements avec cette communauté pour faire vivre cette communauté et pour faire découvrir aussi au public, au grand public, au public montpelliérain, qui travaille à la halle et qu'est-ce qu'ils font et peut-être des compétences qui pourraient être utiles aussi à d'autres personnes sur Montpellier.
Tropisme, c'était le premier tiers-lieu à Montpellier, tu penses ?
En tout cas, de cette taille-là, oui.
Ouais.
De cette ampleur, 4000 mètres carrés avec... des objectifs de programmation événementielle et aussi en la communauté de résidents. On parle d'une communauté de 200 résidents.
C'est énorme.
Plus de 40 bureaux donc, avant les ateliers. Donc, effectivement, c'est le plus gros tiers-lieu de Montpellier, ouais.
Ouais, ouais. Et justement, toi, en tant que chargée de commercialisation, est-ce que, enfin, quand Tropisme a ouvert, est-ce que bah il y a eu de la demande tout de suite? Est-ce que, enfin, les gens s'interrogeaient parce que bah ça, c'était un petit peu nouveau quand même à Montpellier, ce format-là?
Ouais, il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de curieux. Ça a été une jolie vague d'intérêt et j'ai fait beaucoup de visites de chantier, des souvenirs de casques et de visites de groupe. On faisait des visites de groupe parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et ça a eu un joli succès et c'était une jolie période. En tout cas, j'ai gardé beaucoup d'amis des résidents. On a bien rigolé.
Par la suite, tu disais que, 'fin, y a eu des ateliers.
Oui, du coup... en fait, on a récupéré à la suite... Il y a la halle mécanique et en fait derrière il y a d'autres bâtiments et en fait un des bâtiments a été récupéré en location à la CERM et l'idée ça a été aussi assez vite d'ouvrir un deuxième espace axé plus avec des artistes, mm-hmm. plasticiens, arts visuels, puisqu'on avait aussi beaucoup de demandes et qu'effectivement à Montpellier il y a très peu d'ateliers d'artistes.
Tout à fait.
Donc c'était aussi l'idée de répondre à un besoin. Et donc on a ouvert ce deuxième pôle avec, je fais appel à mes souvenirs, combien d'ateliers Anne-Charlotte, je crois qu'il y a une trentaine d'ateliers, ouais. Donc ça a rajouté entre 60 et 80 résidents.
Oui, puisque ces ateliers sont souvent partagés, enfin la plupart du temps.
Ouais. Oui, ouais, complètement. Même les bureaux, on avait plusieurs offres, effectivement, mais il y avait beaucoup de colloques, on va dire, d'artistes. Et c'est ce qui a plu aux artistes au début, c'était cette idée de refaire un peu une colloque comme aux Beaux-Arts. C'était assez chouette. Donc du coup, j'ai fait l'ouverture des ateliers. Et après 3 ans et demi à la halle, j'ai eu envie de faire une pause. Mm-hmm. Du coup, j'ai quitté la halle et je me suis remise à mon compte pour faire... de la programmation événementielle, du commissariat d'exposition et aussi toujours dans cette logique d'accompagnement de tiers-lieux, mais en freelance.
Oui, puisque c'est ça qui t'a amené...
C'est une transition.
Ouais, magnifique, disons, j'aurais pas fait mieux. C'est ça qui t'a amené chez Line-Up, puisque Kenny a suivi... Kenny a suivi une formation l'année dernière sur facilitateur de tiers-lieux, si je me trompe.
Ah oui, mais c'est vrai, effectivement. Oh là, vous êtes bonne, Laura.
Eh oui, écoutez, on fait son travail le matin.
Oui.
Et c'est comme ça qu'elle t'a rencontré, puisque tu es intervenue dans cette formation en fait.
Oui, effectivement, j'ai eu la chance de donner quelques modules au sein de la formation piloter un tiers-lieu sur le métier de facilitateur animateur de communauté, puisqu'effectivement mon poste à la base c'était chargé de commercialisation, mais après est devenu responsable de l'animation professionnelle de la halle. Et donc du coup, c'est là que j'ai rencontré Kenny qui a suivi ce module.
Tout à fait, qui a suivi cette formation l'année dernière.
L'année dernière,
2023. Hein.
Le temps passe vite.
Tellement. Et suite à ça, on s'est dit, bon, on va faire appel à Anne-Charlotte, en fait, pour nous aider.
Coucou
sur la programmation, puisque, ça fera l'objet d'un épisode, mais le tiers-lieu restant qui est en travaux en ce moment et ouvrira dans quelques mois. Et la programmation, c'est un volet qu'on... Enfin, c'est pas notre cœur de travail, l'événementiel comme ça. Donc, on s'est dit, on va se faire accompagner. On a pris cette dame pendant 2 jours ou 3. Elle a tellement bossé qu'on s'est dit, on va intégrer cette dame à l'équipe. Et aujourd'hui, tu travailles avec nous 2 jours par semaine depuis le mois de septembre et tu nous accompagnes justement sur la partie programmation et peut-être effectivement à venir aussi la commercialisation des espaces du tiers-lieu.
Tout à fait, j'en suis très contente. effectivement, j'ai commencé depuis septembre, découverte de l'association, de l'équipe, des artistes aussi qui font partie du collectif. Moi, ce qui m'a choqué, utilisons les mots.
Oui.
Non, je trouve qu'en fait, ce qui est génial dans votre projet, donc ça fait 10 ans que vous existez.
Ouais.
Là, c'est l'évolution logique aussi du projet avec ce tiers-lieu et ces ateliers d'artistes. Et de faire aussi une programmation autour de ce que vous aimez, de ce que vous faites. C'est, pour moi, vous êtes déjà un tiers-lieu, en fait. Il y a déjà tout, en fait, dans vos ateliers, vos bureaux actuels. Vous avez déjà une communauté, donc il y a déjà une communauté de résidents. Il y a déjà de l'événementiel,
oui.
Même si ce n'est pas votre cœur de métier, vous faites déjà de l'événementiel. Les gens s'entraident, se passent des plans, travaillent ensemble. Donc effectivement, il n'y a pas de café-resto, il n'y a pas une ouverture sur le public, etc. Mais il y a déjà, en tout cas...
La façon de travailler...
Ouais, l'ADN tiers-lieu est déjà présent. Donc du coup, ce collectif qui va s'agrandir en avril prochain... date de l'ouverture, enfin, en tout cas, pour moi, ça a tout son sens. Et surtout, la pratique artistique, ce que vous faites, c'est quelque chose qu'on voit dans Montpellier. Oui. Les gens, mais il n'y a pas encore vraiment, d'événements augmentés à partir de la pratique aussi du street art. Donc, il y a quelque chose aussi à développer qui peut être, en tout cas, hyper intéressant pour Montpellier.
Et puis, il y avait l'envie d'accueillir du public, parce que là où on est aujourd'hui, on ne peut pas trop. On le fait exceptionnellement deux fois par an pour des journées portes ouvertes à un marché de Noël. Mais l'idée, c'était de pouvoir accueillir du public, en fait, sur un lieu, leur faire découvrir l'espace, enfin, les ateliers, les différentes pratiques. On donnait des cours, et puis le Covid est passé par là. Donc, c'est cette envie aussi d'accueillir du public, mais de redonner, enfin de transmettre, puisque c'est quand même un axe de travail fort chez Line-Up, en fait. Donc c'était ça aussi qui motivait vers cette...
Ouais, ce fait de montrer aussi un petit peu ce que vous faites.
Ouais.
Et je pense aussi de développer d'autres partenariats, d'autres actions. Mm-hmm. Là, tout ce travail qu'on est en train de mettre en place dans le quartier, avec les acteurs associatifs, culturels, pour développer une programmation aussi... co-construite, c'est hyper intéressant, et je pense que tout le monde est ravi de ce projet. Donc 1500 mètres carrés dans le quartier près Montpellier Sud, près d'Arènes.
Tout à fait.
Un café-resto, 13 ateliers, 4 bureaux,
voilà.
Une programmation à l'année.
Une galerie d'art.
Un patio ou un atrium?
Un patio, comme qui dirait. je sais pas ce que ça va être comme mot. Restant que mis de côté, j'oublie pas que tu fais du commissariat d'expo toujours, en fait.
Oui, tout à fait.
Comment la meuf, elle a 150 casquettes différentes. Et quelle forme ça prend, du coup, ces expositions-là? Où est-ce que tu les fais
En ce moment, je travaille avec l'atelier de céramique Broca qui est installé à Sète.
Mm-hmm. On salue Anaïs, d'ailleurs.
Ouais, coucou Anaïs. Du coup, on développe des expositions transversales, en tout cas, dans son espace d'atelier.
Mm-hmm.
Donc là, on a clôturé la dernière exposition. Là, c'est un peu Noël, donc on laisse l'espace accessible pour marché de Noël.
Ouais.
Mais l'idée peut-être de développer d'autres choses. C'est plus des expositions sous forme d'installation. Et après, là, j'ai développé avec l'artiste Karen Thomas un espace d'exposition dans son appartement qui permet de tester des nouveaux formats plus intimistes. Donc là, aujourd'hui, on a monté une exposition dans un tout petit espace qui s'appelle la Spare Room, donc qui est la chambre d'amis de l'appartement, avec 13 artistes. Beaucoup de Montpellier. Et voilà, l'exposition s'active sur rendez-vous. Ou alors, là, ce week-end, on va ouvrir samedi, dimanche, 14h30, 18h, si vous avez envie de venir voir, compte Instagram, Sparrow Project.
Je vous le conseille parce que c'est... déjà, aller voir une expo dans un appart, c'est assez atypique. Et puis, il y a des tas d'œuvres différentes à voir, notamment ce travail sur papier qui est dans la Spare Room, justement.
Oui, c'est ça.
Mais il y a les dessins aussi dans le couloir, les dessins de Karen.
De Karen. En fait, c'est vraiment un parcours sur papier. C'est ce qui rassemble les 13 artistes présents. Et l'idée, c'était aussi de simplifier aussi le rapport à l'art, de pouvoir être dans un espace... simple, puisqu'on est dans un appartement, de voir aussi des œuvres accrochées comme dans un appartement, et aussi discuter de manière assez simple, assez libre avec les artistes, et Karen Thomas aussi, qui est une artiste très accessible. Donc c'était aussi ça.
Rendez-vous sur l'Instagram Spare Room Project, du coup, pour aller voir l'exposition. Et puis, c'est sur cette note artistique qu'on termine cet épisode. Merci beaucoup, Anne-Charlotte, d'être venue au micro Terrain Vague.
Merci beaucoup. J'ai hâte de revenir pour qu'on parle après en détail de cette programmation
Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno, en régie, et à bientôt pour un nouvel épisode de Terrain Vague.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est de véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.